Alors maintenant, on va aborder les gens qui s'est tourné la psychologie de l'acte de foi, où est présupposé, bien sûr, dans cette phénoménologie, le passage de la non-foi à la foi, ou de la non-état de grâce sanctifiante à grâce. À la grâce de justification, cela est en arrière-fond parce que Newman se passe au point de vue psychologique et non pas au point de vue théologique. Mais en fait, l'assentiment qui est donné à partir des motifs de crédibilité, l'assentiment ferme à la foi, Newman suppose à ce moment-là évidemment l'intervention de la grâce qui a été agissant dans la conscience d'ailleurs, comme nous avons vu là dès le début. Bon. Donc c'est une phénoménologie qui n'aborde pas théologiquement la distinction entre nature et grâce, si vous voulez. Alors ici, donc, dans le plan que vous avez, je pense, vous avez ceci, hein, la problématique psychologique, etc. Oui, vous l'avez ici, vous avez un plan et vous avez des textes. Hein. Ça va?
Oui.
Bon. La première, j'ai deux remarques introductives. Une remarque que j'ai mis là, dans le 1, la problématique psychologique, j'ai une remarque autobiographique, terminologie humanienne. Ben, la remarque autobiographique, au fond, nous en avons déjà parlé, mais je reviens là-dessus, c'est que Newman, ayant vu, signale lui-même dans des écrits ou un écrit postérieur à l'apologie qu'il a passé de longues années à méditer justement comment l'intelligence à partir de probabilité et seulement de probabilité arrive à cet état d'assentiment ferme, si vous voulez, qui est d'ordre intellectuel et qui n'est pas simplement un élan du cœur, ce que supposait Keeble comme solution au problème, si vous voulez, la solution de scepticisme où laisserait simplement les probabilités si on s'y engluait. Keeble lui a donné l'idée que l'amour donne à notre adhésion de foi une fermeté qui ne pourrait résulter de la seule accumulation des probabilités. Et Newman, je vous ai dit, a dit non, la foi catholique exige qu'il y ait accès ou passage aussi à une certitude d'ordre intellectuel et pas simplement à un élan d'amour qui embrasse l'objet de la foi. Alors, on reprend avec le numéro 1 des textes que vous avez, ce problème autobiographique, si vous voulez, ou nous situons à nouveau, si vous voulez, comment il a posé le problème avec le numéro 1. Est-ce que quelqu'un pourrait lire le numéro 1, là, où il dit dans l'apologie qu'il a réfléchi longuement sur ce problème de la différence entre certitude de l'assentiment ferme et probabilité, et comment le passage pourrait se faire. Est-ce que on peut lire le numéro 1, là? Une âme charitable.
Je ne discutais pas du tout cette manière d'envisager le sujet, car je l'employais moi-même.
Ça, c'est-à-dire l'idée qu'au fond, oui, l'amour renforce l'adhésion, ou même peut créer cette adhésion. Bon, oui, oui.
Mais j'en étais mécontent parce qu'elle n'allait pas à la racine de la difficulté. Elle était belle et religieuse, mais ne pouvait pas prétendre être logique. J'essayais donc de la compléter par des considérations personnelles tacitement exprimées dans mes University Sermons, mon essai on Ecclesiastical Miracles et mon essai on Development of Doctrine.
Mais il n'est pas satisfait encore avec ce qu'il a fait là, oui.
Dans ces grandes lignes, voici mon argument. Cette certitude absolue que nous pouvons posséder, soit en ce qui concerne les vérités de la théologie naturelle, soit quant au fait d'une révélation, elle est le résultat d'un assemblage.
Et alors la maison pour laquelle il y a une petite note, c'est que le mot assemblage est utilisé par lui en anglais. Oui.
De probabilité concordante et convergente. Et cela résulte à la fois de la constitution de l'esprit humain et de la volonté de son Créateur. Cette certitude est une habitude de l'esprit. L'évidence est une qualité des propositions. Les probabilités qui n'atteignent pas la certitude logique peuvent suffire pour créer une certitude mentale. La certitude ainsi créée peut égaler en degré et en puissance la certitude créée par les plus strictes démonstrations scientifiques. Et, enfin, une telle certitude peut, dans certains cas, et pour certains individus, être un véritable devoir, bien qu'elle n'en soit pas un, en d'autres cas, et pour d'autres personnes.
Alors, ça, voyez-vous, montre qu'il est conscient, parce que ça, c'est un mystère, je pense, pour certains catholiques, dans le mouvement œcuménique, d'ailleurs, qui a fait pénétrer davantage les milieux anglicans par des catholiques. Comment est-ce que des âmes peuvent percevoir, finalement, la vérité du catholicisme et ne pas faire le pas? Comment? Et c'est un fait. Et il dit, même Newman, que peut-être en certains cas, ayant perçu... le frère Roger, qui est devenu crypto-catholique, mais moi, je n'ai pas aimé tellement la formule, mais le père Roger de Thésée voyait bien que le trésor du catholicisme était l'Eucharistie et que les luthériens ne l'avaient pas, mais qu'il restait dans une sorte de pauvreté écuménique par amour, par fidélité à une vocation écuménique d'identification avec ceux qui étaient pauvres de l'Eucharistie, si vous, ou pauvres de la mort de l'Eucharistie. Et on se demande, est-ce que l'Esprit Saint, alors, fait que certaines âmes peuvent rester comme ça? L'archevêque de Canterbury, Arthur Michael Ramsay, était un saint, et qui était certainement, moi je crois que je l'ai dit ici déjà, bien au-dessus de tous les professeurs du séminaire où j'allais en Angleterre pour enseigner, bien au-dessus dans la qualité de son âme, etc. Comment n'a-t-il pas perçu un jour que l'Église catholique était en fait l'Église de Jésus-Christ? Mais a-t-il dit, ce n'est pas mon devoir de passer de l'autre côté parce que j'ai tout ce peuple qui dépend de moi comme d'une sorte de patriarche du monde anglo-saxon? Est-ce qu'il a dit ça? Est-ce que Dieu lui a demandé de rester comme ça? Voyez, c'est un grand mystère, ça. Hein? C'est un grand mystère. Je suis en correspondance avec une méthodiste qui sait très bien que le centre du christianisme est Rome. Elle le sait bien, parce que c'est évident pour les méthodistes qui n'ont pas l'ecclésiologie qu'il faut absolument qu'ils s'appuient tout en étant dehors sur l'ecclésiologie romaine pour pouvoir continuer à témoigner dans un monde sécularisé. Mais elle n'a pas compris que c'est son devoir de devenir catholique. Et elle est sainte, c'est une sainte femme qui connaît mieux le catholicisme que beaucoup de ces personnes, que beaucoup de personnes qu'on rencontre. Mais est-ce que c'est parce que Dieu lui dit, est-ce que c'est parce que Dieu lui a dit, mais vous restez là où vous êtes et vous restez pauvre de ça? C'est un mystère, ça. Un mystère, ça. Ou on peut retourner l'argument encore d'une autre façon et dire, si l'Esprit Saint sait, pour parler un langage humain, que l'Église catholique est la plénitude, c'est là où est la plénitude institutionnelle et mystagogique, disons, du corps du Christ dans le monde, mais il suscite des grâces insignes dans le mouvement charismatique protestant, pentecôtiste, etc. Et alors, ces gens-là peuvent être un exemple pour nous. Et c'est comme ça. Et j'ai parlé à de Montléon, l'évêque de Meaux, là, qui était spécialisé dans les mouvements charismatiques lorsqu'il a fondé d'ailleurs ou était cofondateur de l'Emmanuel. Et il m'a dit, je suis d'accord avec vous, que l'Esprit Saint est tellement bon dans son état de don, qui tient compte de l'empirisme en anglo-saxon. Et par conséquent, des phénomènes qui se produisent sous son inspiration dans l'anglo-saxon ne serait pas permis dans l'Église catholique, et c'est normal que ce soit comme ça. Ah, il faut Newman était conscient de tous ces aspects-là du problème, et c'est pour ça qu'il n'a pas été trop vite, hein. Il n'a pas été trop vite comme certains l'ont été. Bon, en tout cas, voilà. Donc il y a cette allusion à la théorie de Keble, ou à la position de Keble, qui n'était pas satisfaisante pour Newman. La certitude qui va découler de probabilité doit être une qualité psychologique, une certitude mentale, comme dit notre texte à la fin de la page, on l'a lu là. Et encore, une habitude mentale de l'esprit, dit Newman. Il faut donc partir des notions clés de la terminologie newmanienne pour voir clair dans la problématique newmanienne des antécédents de la foi. Donc, nous allons regarder la terminologie newmanienne. Simplement rappeler certaines choses. J'ai marqué trois choses là, je crois, appréhension et assentiment. Assentiment et inférence, le passage de l'inférence à l'assentiment. Appréhension et assentiment. Dans la section de la partie de la grammaire de l'assentiment qui est préparatoire, si vous voulez, à ce que nous disons ici, Newman examine l'acte de foi du point de vue objectif, c'est-à-dire du point de vue de la connaissance objective du donné révélé sur laquelle cet acte nous permet de déboucher. En même temps, cependant, parce qu'il s'est agi d'abord de l'acte de foi et non pas du contenu de donné révélé pour lui-même, et à cause du point de vue délibérément psychologique où Newman se place, nous avons déjà Newman montre, si vous voulez, que certaines caractéristiques psychologiques il se place, il aborde certaines caractéristiques psychologiques de cet acte. Bon. Il a parlé d'un acte d'appréhension psychologique en corrélation avec ce qui est appréhendé. Il contraste l'appréhension notionnelle et l'appréhension réelle. Et alors, je vous ai lu le passage, je pense, hier, qui distingue entre ce qu'il entend par appréhension, connaissance réelle et connaissance notionnelle. Bon. Et alors, l'acte d'adhésion ferme à ce qui est ainsi appréhendé soit d'autant plus ferme qu'il s'agit de la connaissance réelle et non pas de la connaissance notionnelle. Autrement dit, pour employer la propre terminologie humaine, nous avons déjà la première partie de la grammaire de l'assentiment examine déjà l'acte de foi comme un acte appréhensif. Voilà. Assentiment et inférence. Dans la deuxième partie de la grammaire de l'assentiment, Newman aborde l'assentiment d'un point de vue comme acte mental d'adhésion inconditionnelle à ce qui est appréhendé. Sous cet angle, l'assentiment est à distinguer de l'inférence avec laquelle est en corrélation, parce qu'une inférence n'est pas une adhésion inconditionnelle. Une inférence est un acte mental qui correspond à une proposition conditionnelle, c'est-à-dire proposition dont la vérité dépend d'autres propositions. Inférer, dit Newman, c'est soutenir en s'appuyant sur des raisons suffisantes que le libre-échange, par exemple, doit nécessairement ou devrait être un avantage. Donner son assentiment, assent en anglais, à la proposition, c'est soutenir que le libre-échange est un avantage. Autrement dit, la première façon de formuler la chose tient compte de la possibilité de l'erreur dans l'inférence, alors que la deuxième manière de proposer la chose dit tout bonnement, eh bien, il en est ainsi. L'inférence, donc, exprime une conclusion à partir de raisons qui la fondent. Et par conséquent, on admet la possibilité de la fausseté de cette conclusion. L'assentiment, par contre, exprime une affirmation pure et simple. L'inférence est conditionnelle, l'assentiment inconditionnel. Je mets ça sur le tableau. Thank you. Féminin. Là, parce qu'elle tient compte de la possibilité de l'erreur. De l'erreur dans les raisons dont elle est la conclusion. L'assentiment est purement et simplement inconditionnel. Entre deux personnes à propos du cardinal Ratzinger lorsqu'il était à la congrégation de la doctrine de la foi. Et alors, l'un des interlocuteurs a dit: que pensez-vous être la caractéristique la plus en relief chez le cardinal Ratzinger? Réponse: sa soumission inconditionnelle à l'Église. Mal est arrivé là. Inconditionnel à l'Église. Pas de petites nuances les francs. Ah ben non, je ne dis pas ça. Vous avez un certain clergé, vous savez, en France, qui n'ose jamais rien affirmer parce que c'est pas politiquement correct d'affirmer. On dit c'est peut-être comme ça. Dans ma première année, lorsque j'étais à Lille, j'en étais bleu, parce que c'était 68, et alors j'avais un cours de déontologie à faire à des étudiants de médecine qui se foutaient comme de la première culotte des règles de morale de l'Église catholique en matière de vie. Et alors, il y a une fille qui arrive chez moi, qui devait préparer à une réunion quelque chose comme ça. Elle regarde ma bibliothèque et elle dit: mon père, si vous croyez que vous allez me convaincre avec tous ces livres-là, vous êtes en erreur. Parce que moi, je suis en recherche. Voilà. Et je suis toujours en recherche. Voilà. Et c'était la mode. Et en 68, elle était toujours en recherche parce qu'affirmer une vérité était politiquement incorrect. Bon. Je n'exagère pas. Bon, l'assentiment est inconditionnel. La deuxième partie de la grammaire, l'assentiment, qui traite du problème des antécédents de la foi, va donc aborder l'assentiment comme acte mental inconditionnel, alors que la première partie l'abordait comme acte mental appréhensif. Voilà. Il s'agit donc de déterminer comment un assentiment raisonnable peut suivre un assentiment ferme, peut-être le fruit suivre, si vous voulez, une inférence qui ne l'est pas. Le passage de l'inférence à l'assentiment, c'est précis. Ben, j'y suis maintenant. C'est précisément dans ces termes que Newman va aborder le problème des antécédents de la foi. Autrement dit, il aborde d'un point de vue psychologique et subjectif le problème de la rationalité de la foi, qui dans les traités d'apologétique classiques est abordé plutôt d'un point de vue objectif et logique. Je peux prouver que les évangiles sont un motif de crédibilité valable parce que les témoins sont fiables, etc., etc. Je peux prouver que il est possible qu'il y ait une révélation parce que il y a une âme immortelle dans l'homme, et l'âme immortelle dans l'homme est à l'image de Dieu dont je peux prouver l'existence, bah, etc. Bah, Newman ne passe pas par il passe par ce chemin-là d'une certaine manière parce que les objectifs sont finalement atteints, mais pas le chemin de toute la subtilité d'une démarche psychologique. Dans les manuels, en effet, je viens de dire ça, dans les manuels, bon. Dans la grammaire de l'assentiment, Newman va poser le problème du passage de la non-foi à la foi dans les termes psychologiques suivants. Étant donné que notre acte d'adhésion aux données révélées, faits et contenus, est l'aboutissement de raisons de croire qui ne sont pas des preuves logiques, mais de simples probabilités, de simples raisons probables, de simples vraisemblances sur le plan historique, etc., comment cet acte d'adhésion peut-il dépasser le caractère conditionnel de la simple inférence à partir de toutes ces données probables pour devenir un sentiment inconditionnel? Bon. Alors, je vais mettre ça sur le tableau. Le problème des motifs de crédibilité se pose pour Newman dans les termes suivants. Comment, à partir d'un ensemble de raisons de croire, qui ne sont que des probabilités, est-ce que je puis passer à une adhésion qui dépasse le caractère conditionnel de la simple inférence? Comment est-ce que je... attendez, ça va, ça? Comment à partir de... est-ce que je puis passer, oui, à une adhésion de... qui dépasse le, à une adhésion qui dépasse le caractère conditionnel de la simple inférence, ou autrement dit, à une adhésion qui est un sentiment inconditionnel. Voilà. De la force et de mauvaise. Vu sous cet angle psychologique, le problème de l'assentiment de foi est un cas particulier du problème psychologique d'ordre général. Donc, ce dont je vais parler lorsque je disais que si j'ouvre le robinet, j'ai l'habitude de penser que c'est une certitude que l'eau va couler, alors que c'est une simple probabilité. Bon. Donc, vu sur cet angle psychologique, le problème qui se pose est semblable au problème qui se pose à l'activité intellectuelle habituelle lorsque nous sommes amenés à faire le saut à l'assentiment. Mais Newman dira, bien sûr, parce qu'il est catholique, que étant donné que la grâce intervient dans le passage des multitudes de crédibilité à la foi, Dieu donne une certitude beaucoup plus forte encore à cet assentiment, une fermeté beaucoup plus forte encore à cet assentiment, même qu'à des propositions scientifiques notionnelles, si vous voulez, qui sont contraignantes sur le plan logique. Et là, il rejoint Saint Thomas quand même, en disant Dieu fait en sorte que sa grâce affermit notre assentiment au-delà de toutes les probabilités. Il y a un passage dans l'assentiment où il dit ça. Mais regardons le numéro 2 de nos textes qui montre comment Newman s'exprime à propos de ce fait. Au fond, c'est un cas particulier d'une situation constante, finalement, de l'esprit humain aux prises avec la réalité. Est-ce qu'on peut lire le numéro 2, si vous voulez bien?
Ceci est évident. Mais ce qui présente quelques difficultés, c'est de voir comment une acceptation conditionnelle d'une proposition comme l'est un acte d'inférence est capable d'aboutir, comme cela arrive, à une acceptation inconditionnelle, comme l'est l'assentiment. Comment se fait-il qu'une proposition qui n'est pas et ne peut pas être démontrée, dont tout au plus on peut prouver qu'elle est vraisemblable, non point vraie comme je mourrais...
Voyez cet exemple-là, hein? Oui.
Exige et reçoive néanmoins notre adhésion sans réserve. C'est ce paradoxe, comme on peut l'appeler, que je vais examiner maintenant en considérant en premier lieu l'acte d'assentiment à une proposition, lequel acte est inconditionnel. En second lieu, l'acte d'inférence qui précède l'assentiment et qui est conditionnel. En troisième lieu, la solution de la consistance apparente qui est impliquée dans le fait de soutenir que l'acceptation inconditionnelle d'une proposition peut être le résultat de sa vérification conditionnelle.
Donc, il pose le problème clairement là que je viens de mettre au tableau. Alors nous arrivons maintenant au deuxièmement, après ça, le ressort psychologique du passage de la non-foi à la foi. Donc la synthèse des probabilités convergentes, le sens illatif et la dialectique de la conscience. Eh bien, on peut tout simplement, je pense... Ah ben non. La synthèse des probabilités convergentes. D'abord, il y a l'incapacité de l'inférence formelle à faire ce passage, puisque ce serait de nouveau soumettre finalement l'acte de foi qui est l'aboutissement d'une réflexion sur les probabilités, ce serait le soumettre à une preuve logique, ce que la constitution de Théophilus a dit est hérétique. Bon. Donc, il écarte par conséquent la possibilité de l'inférence formelle d'agir, d'être utile dans ces circonstances. Donc, dans le domaine de savoir portant sur la vie concrète et en fortiori sur celui de la foi, nous parlons habituellement à des convictions qui sont des assentiments fermes et inconditionnels et non pas des conclusions à inférence conditionnelle. Et c'est précisément le processus de raisonnement qui nous conduit à cette conviction. C'est que le processus de raisonnement qui convient à cette conviction n'est pas composé par une séquence logique conceptuellement objectivable où il n'y aurait que des inférences logiques de type conditionnel. Au raisonnement explicite, dans la mesure où ceci existe, car dans beaucoup de raisonnements spontanés, l'explicitation n'existe pas du tout, s'ajoute et se mêle toute une série de démarches psychologiques implicites qui ont leur source dans la structure psychologique de notre personnalité, dans ce qu'elle a d'individuel et pourtant d'original et donc logiquement incommunicable. Voilà. Donc voilà comment il écarte l'utilité de l'inférence formelle qui est utilisée dans les sciences exactes. Maintenant passons à l'inférence formelle, informelle. Ce processus est l'implicite, ce processus de l'implicite et de l'évaluation personnelle logiquement justifiable ou objectivable conduit là. Ce processus où l'implicite et l'évaluation personnelle non logiquement justifiable ou objectivable conduit à une conclusion qui est objet d'assentiment ferme et inconditionnel. Newman l'appelle l'inférence informelle. Et alors voici comment il va en parler. Et nous avons... Oui, c'est ça. Est-ce que nous pouvons prendre le texte 3 maintenant?
Il est clair que l'enchaînement de la logique formelle n'est pas en fait la méthode qui nous rend capables d'acquérir la certitude dans le domaine du concret. Et il est également clair, d'après ce qui a été déjà suggéré, qu'elle doit être ici la méthode réelle et nécessaire. C'est le cumul des probabilités indépendantes l'une de l'autre, résultant de la nature et des circonstances du cas particulier qui est examiné. Des probabilités trop ténues pour s'imposer séparément, trop subtiles et trop sinueuses pour pouvoir être converties en syllogisme, trop nombreuses et trop variées pour une conversion de ce genre, même si celle-ci était possible. De même que le portrait de quelqu'un diffère de son esquisse en ce qu'il a non seulement un contour continu, mais tous les détails achevés, ombre, couleur, coucher et harmonisé ensemble, ainsi en est-il du processus multiforme et compliqué du raisonnement nécessaire pour atteindre l'homme comme fait concret, si on le compare à l'opération but du traitement syllogistique.
Il y a quelque chose, je pense, de pascalien dans cette affirmation-là, à savoir que Pascal nous dit que la manière d'appréhender l'écriture n'est pas de passer d'une proposition à une autre, mais de regarder se dessiner devant nous de plus en plus clairement un visage. C'est pas ça. Et alors, lorsque le visage se dessine assez clairement, à ce moment-là, nous avons Jésus-Christ. Dieu dessine un visage dans l'histoire, il ne fait pas des propositions logiquement. Que non, que non. Oh, que non. Il dessine un visage. Il dessine le visage de l'époux. Et lorsqu'il a dessiné le visage de l'épouse suffisamment clairement, il demande à l'épouse qui est mariée de l'accepter. Et Marie dit oui. Voilà. J'ai mis ça. Raisonnement aboutit à visage parce que c'est notre propre visage personnel qui se projette dans le raisonnement. Hein. C'est parce que nous sommes visage et non pas raisonnement logique que nous pouvons justement recevoir l'écriture qui est le portrait progressif, la précise. L'Ancien Testament précise progressivement un visage et ce visage, c'est celui de Jésus. Troisièmement, le cumul des probabilités. C'est l'inférence, non pas formelle, mais informelle, c'est par l'inférence, non pas formelle, mais informelle, qu'a lieu la convergence de probabilités qui va aboutir à l'assentiment ferme. Celui-ci est le résultat de cette convergence même, parce que cette convergence est faite autour d'une conclusion identique. Ce qui donne sa force psychologique à ce processus, c'est l'effet cumulatif des probabilités. Il s'agit d'une conglobation de celles-ci. On globalise, mais dans le sens de toujours renforcer, si vous voulez, la globalité. C'est ça que ça veut dire. Il s'agit d'une conglobation de celles-ci qui leur donne une force psychologique qualitativement autre que la somme matérielle. Et ça, évidemment, il faut absolument éviter de penser que Newman a simplement dit qu'on ajoute les probabilités les unes aux autres jusqu'à ce que ça bascule dans le sens d'un poids. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est qu'il y a une manière dont les probabilités s'organisent les unes par rapport les autres pour constituer une réalité organique contraignante. Voilà, c'est ça. Alors là, nous l'avons dans le numéro 4. C'est pas facile de parler de ça pendant deux heures, mais ça fait génial. Allez, on continue. Ah, parce que c'est subtil, hein, c'est bon, allez, on continue. Le principe sur lequel, oui.
Le principe sur lequel reposent ces observations est reconnu par quelques-uns des plus profonds théologiens anglais. L'évêque Butler, par exemple, qui a été si souvent cité ici, argumente ainsi en faveur du christianisme, tout en reconnaissant en même temps le désavantage qui en découle pour l'ensemble de la révélation. Les preuves probables, dit-il, en s'additionnant, ne font pas qu'augmenter leur force, elles la multiplient. Je ne voudrais d'ailleurs dissuader personne d'apporter les arguments qu'il croit avoir en faveur de la thèse contraire.
Alors là, justement, et on va voir ça par le sens relatif, Newman n'est pas dans le sens d'un simple additionnement des probabilités. Parce qu'en fait, Butler n'a pas, il a examiné le problème objectif ou ce qui est objectivement à la base des motifs de crédibilité, il n'a pas examiné la démarche psychologique qui va de l'inférence jusqu'à l'assentiment comme Newman. Par conséquent, il donne aux probabilités simplement une force cumulative par addition. Mais Newman ne fait pas ça. Et il dira qu'une seule probabilité, quelquefois, est capable d'être plus forte que toutes les autres probabilités parce que c'est celle-là qui correspond au visage que je cherche, enfin, ou à ce qui correspond à mon expérience personnelle intime, si vous voulez. Une seule probabilité peut faire beaucoup plus pour correspondre à ma sensibilité ou à ma personnalité intime qu'une masse de probabilités. Et d'ailleurs, le maître par excellence de ce genre de psychologie, c'est notre apôtre Saint-Jean, parce que l'aveugle n'est quoi envers et contre tout pendant que les pharisiens sont kikines et sont glues dans leur raison de quoi ou de leur Torah ou je ne sais pas trop quoi. Et l'aveugle n'est sort avec une seule probabilité, c'est que si Jésus a fait ça, il est le Fils de Dieu. Voilà. On continue. Bon.
La vérité de notre religion, comme la vérité des choses ordinaires, doit être jugée à partir de toutes les preuves prises ensemble. Et si l'on ne peut regarder raisonnablement comme fortuite toute la série des preuves alléguées dans cette démonstration, et chacune en particulier, car c'est là que gît la force de l'argument en faveur du christianisme, alors sa vérité est démontrée. Il faut procéder tout comme si, dans une affaire ordinaire, on avait à faire fond sur de nombreux événements reconnus pour prouver un autre événement contesté. La vérité de l'événement contesté serait prouvée non seulement dans le cas où l'un des événements certains l'impliquerait clairement, mais elle le serait aussi quand bien même aucun d'eux pris à part ne répondrait à cette condition, pourvu que la totalité des événements reconnus, pris en bloc, ne puisse raisonnablement être supposée vraie si l'événement contesté ne l'est pas.
Vous voyez, il suppose le cas où l'un des événements certains l'impliquerait clairement, oui.
On voit tout de suite quel avantage donne cette situation à ceux qui attaquent le christianisme, spécialement dans la conversation, car il est facile de montrer de manière rapide et vivante que telle et telle chose prête à objection, que telle et telle autre sont peu de poids, alors qu'il est impossible de faire ressortir de la même manière, en une vue unique, la force liée de toute l'argumentation.
Malgré tout cela est de Buckley quand même. Par conséquent, Buckley est plus nuancé que je le pensais. Il est plus nuancé que je le pensais. Mais enfin, le point de vue de la subjectivité croyante par rapport à ça n'est pas dans son analogie. Bon. Donc, ce qui importe dans les probabilités, c'est leur convergence, leur conglomération dans l'esprit qui fait qu'elle se dépasse elle-même pour devenir démonstration probante. Voilà. C'est quand même ça qui est dans le texte que nous venons de lire. C'est ainsi que tout au long de la deuxième partie de la grammaire de l'assentiment, Newman donne des exemples qui montrent que pour lui, ce qui importe dans les raisons de croire de l'apologétique, ce n'est pas une quelconque valeur scientifique comme preuve, c'est la aptitude à être signifiant pour des personnes. Voilà. C'est la aptitude à être signifiant pour des personnes. Et même pour l'unique personne que je suis. Par ce biais psychologique, il rejoint l'importance actuelle de la théologie ou l'insistance de la théologie actuelle sur le signe à la suite de l'évangile de Saint Jean, plutôt que sur la preuve. Situer cette catégorie de signes dans la révélation comme décalogue, dialogue entre l'homme et Dieu. Alors, il situe ça dans la manière dont Dieu dialogue avec nous. Dieu ne sait pas quel signe il peut nous conduire. Référence aussi au signe de l'Évangile, voyez. Je mets ça des notes pour moi-même. Voici un exemple. Bien qu'il ne se situe pas au niveau des religions naturelles et non pas du donné révélé, il montre bien que les raisons de croire sont fondamentalement des signes par lesquels Dieu nous rejoint tels que nous sommes. Et alors maintenant, c'est le numéro 5. Ici, je pense qu'il y a quand même des divergences avec Buckley maintenant.
Je pense, dit dans le roman La pauvre ouvrière d'usine qui se meurt, que si c'était cela la fin de tout, et si tout ce pourquoi je suis né, c'était seulement d'user mon cœur et ma vie au travail, et d'être malade dans ce taudis, avec ces meules de moulin dans mes oreilles, qui n'arrêtent pas au point que je voudrais pouvoir crier pour les faire arrêter, et qu'elle me laisse ainsi un tout petit peu de tranquillité, et avec cette étoupe qui remplit mes poumons au point que je désire mourir dans une longue bouffée profonde d'air pur, et puis ma mère qui n'est pas là, et moi qui ne peux plus lui redire encore combien je l'aimais, et lui conter tous mes tourments, je pense que si cette vie est la fin de tout, et s'il n'y a pas de Dieu pour essuyer toute larme de tous les yeux, que je deviendrai folle.
Alors, il montre la conglomération de probabilités que nous pourrions juger avec notre savoir scientifique comme méprisable, mais en fait, Dieu fait comme ça avec les pauvres, c'est ça. Et alors, il met ça dans une phase pour que nous voyons que ça, il y a quelque chose de cumulatif là. Elle n'en peut plus et Dieu vient à son secours. On continue.
Il y a là un argument en faveur de l'immortalité de l'âme. Quant à sa force, qu'elle soit grande ou petite, peut-elle composer une figure dans une dispute logique, menée secundum artem?
Évidemment que non. Hein?
Y a-t-il une mesure scientifique qui puisse forcer les intelligences du riche et de Lazare et s'en faire une même estimation des choses? Est-il quelque critère de sa validité meilleure que le ipse dixit du jugement privé, c'est-à-dire le jugement de ceux qui ont le droit de juger, et ensuite l'accord de plusieurs jugements privés en une seule et même vue de la chose?
Et il l'achète comme ça. C'est-à-dire que la raison pour laquelle je pense qu'il a cité Lazare et le mauvais riche, c'est parce qu'il voit la suprême art de la pédagogie de Jésus qui dit « Si quelqu'un ressuscite des morts, ça ne change rien. » Parce que les dispositions du cœur, ce qu'il dit là, ceux qui ont le droit de juger, c'est-à-dire qui ont une conscience droite, ça ne les changerait pas. Et en fait, il se réfère à sa propre résurrection. Il n'a convaincu personne, si vous voulez, sauf les apôtres. Enfin, ouais. C'est ça. Ah, ça, c'est plus. Bon, voilà. Nous arrivons maintenant à ce que le Newman appelle les native sense. En fait, c'est une manière de dire quel est le fondement phénoménologique, disons, sinon philosophique, de cette inférence informelle, si vous voulez. Donc, enfin, en anglais, c'est innate sense. Je vois que dans son livre sur Newman, dans la collection bibliothèque de l'histoire religieuse, Ben Honoré dit au fond que la lecture attentive de l'éthique de Nicomaque à Nicomaque, d'Aristote qui parle de la phronesis, de la manière, le coup d'œil qui permet de voir où est la bonté morale, où est la véritable amitié, etc., et au fond quelque chose qui a influencé Newman dans ce sens élatif, que lui étant non seulement à des vérités d'ordre pratique mais aussi aux vérités d'ordre du donné révélé ou de la religion naturelle. Enfin, Honoré tend à expliquer le sens élatif à l'électeur français dans ce sens-là. Mais moi je dirais ceci, c'est le nom que Newman donne au ressort intime de cet acte de synthèse d'un cheminement mental qui est irréductible à des composantes logiquement. Ah, je vais mettre ça sur le tableau.
Sous les feuilles.
Ah oui, merci beaucoup. Je sais bien que le père Olivier, le traducteur, a simplement traduit, translittéré, si vous voulez, le sens élatif, parce que vraiment, lui a essayé de mettre autre chose. Il n'y a aucune traduction possible du mot si sens élatif tel que Newman l'a employé ici. Donc, je vais mettre ce que je sens quoi être une tentative de définition, en tout cas. Donc, et le nom que Newman donne au ressort intime de cet acte de synthèse d'un cheminement mental fondamentale qui est irréductible. À des composantes logiquement objectivables je vais ajouter, je crois que c'est suffisant que j'ajoute, il s'agit d'une capacité de jugement de synthèse du jugement personnel une capacité personnelle d'évaluation des preuves. Des preuves objectivables, si vous voulez. Comme ça, le contraste est là. Bon, et ensuite, je vais mettre encore la phrase que j'ai mise après, parce que il est un acte indivisible. Natif et le nom que Newman donne au ressort intime de cet acte de synthèse d'un cheminement mental qui est irréductible à des composantes logiquement objectivables. Il s'agit d'une capacité de synthèse du jugement personnel, d'une capacité personnelle d'évaluation des preuves objectivables. Il est un acte indivisible. Il est et demeure l'inéluctable possession de l'esprit personnel. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous dire quelque chose encore qui, tant pis. C'est-à-dire que quelquefois, lorsque j'entends, moi dans ma vie de prêtre, j'ai été à des réunions fraternelles, à des réunions de fraternité en nombre quasi infini. Et je me suis dit, six séminaristes, six séminaristes augmentent l'ignorance de chaque séminariste par six. Voilà. Parce que, qu'est-ce que vous voulez? Et moi, j'ai constaté ça dans les tutoriaux. Je ne dis pas qu'une conversation ne peut pas être intelligente entre plusieurs personnes, mais j'ai constaté, et Newman, c'était sa force dans les relations. Si je veux transmettre certaines choses, je ne peux jamais objectivement les rendre logiquement objectivables, comme je pourrais si je leur faisais un science de maths ou que je formais des ingénieurs ou je ne sais pas trop quoi. Je suis obligé de procéder par osmose. C'est-à-dire que je laisse l'esprit que j'ai foisonner dans le sens de cette intuition maîtresse qui détermine le tout, jusqu'à ce que ce soit implanté dans la personne en face par osmose entre mon esprit et l'esprit de celui qui est dans l'autre fauteuil. Et c'est ça ma méthode d'enseignement. Je ne peux pas connaître d'autres. Parce que quelqu'un au séminaire d'Ars m'a dit: quelle est votre méthode de pédagogie lorsque vous faites des tutoriels, des relations tuteur-élève chez vous, là, avec les étudiants en sociologie? Et j'ai dit, ma méthode, c'est de ne pas en avoir. Bon, alors ça n'a pas satisfait l'interlocuteur, qui était quand même un philosophe français, bon. Et il m'a dit, non, alors j'ai bon. C'est la transmission d'intuitions maîtresses qui ne sont pas objectivables par un processus d'osmose. Et moi, j'ai acquis ça en étant avec un professeur qui était brillant et qui avait justement, il connaissait aussi Newman. C'est Monseigneur Denis qui était professeur de morale à lui pendant un certain temps, et il était mon professeur de thèse. Et moi, un jour, je me suis rendu chez lui avec le plan d'un chapitre d'un mémoire, parce qu'on faisait un mémoire de licence et non pas un mémoire d'études, et pas fait ça, le doctorat, le système romain à Lille à ce moment-là. Alors, il a regardé mon pauvre papier avec mon plan, il l'a chiffonné, il l'a envoyé sur le mur d'en face, c'est tombé dans le panier. Et il est allé à son étagère, il a sorti un manuel de morale de 600 pages en latin, et il a dit: vous perdrez mon temps tant que vous n'avez pas lu tout ça. Ce qui voulait dire: vous n'avez pas les éléments dans votre esprit suffisants pour que je puisse vous transmettre, par mon expérience de professeur, la manière de travailler la théologie. Voilà, c'est ça. Il n'y a rien à faire, qu'est-ce que vous voulez? Alors vous pouvez faire des discussions en fraternité jusqu'à la fin du monde et vous n'aurez pas ces résultats-là. Excusez-moi de vous dire ça. Et lorsqu'on formalise le système de l'IET en Belgique en faisant ces groupes de travail, ces TD, etc., c'est pas le système anglais, ça. Le système anglais, c'est de dire à un élève: vous viendrez avec votre devoir ici et vous le lirez phrase par phrase devant moi, et je vous arrêterai chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors lorsque l'élève part avec la queue entre les jambes, comme on dit en anglais, comme un chien qui est battu, et bien à ce moment-là il comprend qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé dans l'esprit, qui s'est passé dans le mien et que je voulais lui transmettre. Mais tant que vous mettant des TD où un élève fait un exposé rasoir parce qu'il n'a pas assez d'expérience que le professeur a pour rendre ça intéressant, ou peut-être obscur comme moi, bon, ben, eh bien, à ce moment-là, on appelle ça des travaux de groupe, mais mon œil. Le groupe, à ce moment-là, c'est le résultat de ces élèves qui ont rencontré le professeur comme ça, en tout cas, moi, je crois. Ah, il n'y a rien à faire. On n'a pas compris le système universitaire anglais dans l'IET en Belgique. On l'a formalisé à la jésuite. Ce n'est pas la même chose. Oh, excusez-moi. Je ne croyais pas que j'allais dire tout ça. Mais ça me touche profondément, ça. Ça me touche profondément parce que... Mais on perd ça maintenant en Angleterre, parce que une autre manière de dire la même chose, c'est de dire: combien de personnes dans le monde sont vraiment capables de la charité culturelle? La charité matérielle, et ça c'est Benoît XVI qui pense ça, la charité matérielle et même une certaine prédication de la foi, etc., ça on veut, mais la charité culturelle, ça c'est extrêmement difficile. Comment faire en sorte qu'un Chinois, à partir de ce qu'il est profondément dans la chinoiserie, si vous voulez, comment peut-il saisir ce qu'il y a de profond dans la culture française? Comment puis-je parler avec lui jusqu'à ce qu'il saisisse cela? Eh bien, c'est ça la charité culturelle. Et il faut des heures pour arriver à ça. Il faut des heures avec ce Chinois. Et pas simplement le traiter comme le membre d'un groupe où il dit rien jusqu'à ce qu'il parle français. Ça, ça sera pas ça. Excusez-moi. Non, mais c'est parce que... Newman, c'est ça, en tout cas. Newman, c'est ça. Parce que vous direz, si c'est si personnel, le jugement est natif, comment est-ce qu'il n'est pas à une sorte de repli dans l'individualisme protestant le plus outré? Parce qu'il y a un moment où on atteint le niveau profond où la personne est capable de recevoir les mêmes idées maîtresses qui sous-tendent l'ensemble par osmose. Comment?
Il faut avoir des idées maîtresses claires aussi de la part du professeur.
Ah, et quelquefois les anglo-saxons ne les ont pas. C'est ça que vous voulez dire?
Non. Je n'ai même pas pensé ça.
Mais je crois que c'est la vérité. Ah, je veux dire,
de fait, là, ce que vous dites, c'est un rapport de maître au sens fort du terme.
Mais oui, mais c'est
plus
ça.
Plus que de professeur dans ce cas-là.
Mais je dirais, parce que les grands que j'ai eu avec lui hier montrent ça. Pourquoi est-ce que les Français comprennent mieux Newman que les catholiques anglais? Parce qu'ils passent par ce qu'il y a de plus profond dans une culture liée à la foi pour comprendre comment une autre culture est liée à la foi. Et les Anglais ne sont pas capables de faire ça. Parce que depuis le Concile de Trente, ils ont cherché du côté de l'Italie, de l'Italie, l'Espagne, les langues, de la France, etc., pour construire un catholicisme. Ben, ils ne peuvent pas comprendre cette âme-là. Ils ne comprennent pas la même anglicane. Mais l'âme anglicane peut être comprise par un bouillet qui va jusqu'au fond de son âme à lui-même. Moi, je sens ça comme ça. Et Jésus est comme ça. Et Jésus est comme ça. Non,
Bouillet est quand même quelqu'un un peu d'exception pour percevoir
Nélancel, de l'Uvac. Mais effectivement, maintenant, ça pèse ça. Et on ne fait que rapporter des faits précis scientifiques. Newman a éternué le 23 juillet à 6h du soir et s'est couché avec un rhume 3 jours après. C'est ça qu'on recherche maintenant, mais ça ne signifie rien. J'exagère toujours.